Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Kamaragal de la nation Guringai, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui, Grégory Pless, c'est moi qui ai le plaisir de vous accompagner en ce 18 janvier pour une heure d'émission en français. Au programme du jour, on va parler du personnage de la semaine, en l'occurrence il s'agira de Roland Courbis. On s'intéressera également à un sujet assez triste, la mort des arbres en Australie. On fera ensuite un point sur le Dakar avec notre collègue et correspondant sur place, Christophe Mallet. Nous irons également nous plonger dans l'histoire de l'Australie avec la suite des aventures de l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Et puis, pour terminer, on fera un petit tour du côté de l'Alliance française de Brisbane. Alors, j'espère que vous êtes bien installés. On y va! Je vous l'annonçais dans le sommaire, comme tous les dimanches, aujourd'hui on va s'intéresser au personnage de la semaine et nous avons choisi Roland Courbis, ancien footballeur, défenseur pour être précis, mais également entraîneur. Il est décédé le 12 janvier dernier. Je vous propose d'écouter son portrait, il est réalisé par Ileana Guillochon.
Une figure marquante, une personne incroyable, voilà les mots qui reviennent le plus souvent pour décrire notre personnage de la semaine, c'est Roland Courbis. L'ex-entraîneur nous a quittés ce lundi 12 janvier à l'âge de 72 ans. Jusqu'au bout, il aura continué à parler de football. Une figure aux multiples casquettes, joueur, entraîneur, chroniqueur radio respecté. L'annonce de sa disparition a été faite par RMC, la radio où il intervenait régulièrement depuis 2005. Voix rauque, accent chantant et franc-parler assumé, Roland Courbis était un personnage truculent du football français. Ses analyses, son parcours hors normes et sa personnalité unique ont marqué plusieurs générations. Le Marseillais restera dans les mémoires et voici son histoire.
Si je gueule de temps en temps, si je proteste, il faut qu'on sache quand même, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir raison. Mais comme je ne suis pas sûr non plus d'avoir tort, je gueule.
Roland Courbis naît en 1953 dans le nord de Marseille. Il grandit dans le quartier de Saint-Joseph avec un père policier et une mère au foyer. Très tôt, il tape ses premiers ballons sous les couleurs de l'US Police. Et son talent ne passe pas inaperçu. À seulement 13 ans, l'Olympique de Marseille repère ce jeune défenseur. Sa lecture du jeu, sa rigueur tactique et sa solidité défensive impressionnent. À 16 ans, Mario Zatelli l'intègre au groupe professionnel aux côtés d'autres jeunes espoirs du club. En 1972, Roland Courbis intègre l'équipe première et contribue au titre de champion de France de l'OM. Il poursuit ensuite sa carrière dans plusieurs clubs, se distinguant par sa solidité en défense, son sens du placement et son intelligence collective. À l'AC Ajaccio, il s'impose comme titulaire. Puis, à l'Olympiakos, il confirme son influence sur le jeu et remporte le championnat de Grèce en 1973. Et d'ailleurs, petite anecdote qu'il racontera par la suite, pour respecter les règles locales, qui n'acceptent que les joueurs étrangers ayant des origines grecques, Courbis s'invente alors un grand-père, originaire de Thessalonique. Son influence se confirme encore au FC Sochaux, puis à l'AS Monaco. Sous le maillot monégasque, Roland Courbis décroche deux nouveaux titres de champion de France en 1978 et en 1982, et consacre ainsi sa carrière de joueur. En rejoignant Toulon la même année, il reste sur le terrain mais il prépare déjà la suite. Il s'implique dans le recrutement et rapidement il prend une place prépondérante et convainc certains joueurs de renom de le rejoindre. Il devient alors entraîneur et prend les rênes du Sporting Toulon de 1986 à 1991. Après ça, Roland Courbis s'installe sur les bancs de nombreuses équipes. Il participe au développement du jeu des Girondins de Bordeaux.
Et dans l'ensemble, bon, je pense que j'ai quand même démontré une faculté d'adaptation assez évidente, puisque je n'ai pas eu de problème d'adaptation une seconde, grâce évidemment aux gens qui m'ont accueilli, mais je crois que j'ai fait des efforts aussi, je pense que j'ai même pas fait d'efforts, de tout petits efforts.
Puis retrouve en 1997 l'Olympique de Marseille, le club de ses débuts. Chargé de reconstruire l'équipe, il l'amène jusqu'en finale de la Coupe de l'UEFA.
91e minute. Ah, c'est hallucinant. Laurent Blanc qui est passé tout près avec ses têtes face à Martini.
Un temps fort de sa carrière, en 1998, une remontada restée dans les mémoires. Menée 4-0 à la mi-temps face à Montpellier, l'OM renverse complètement la situation et s'impose au coup de sifflet final.
On a terminé pratiquement ce match, qui ressemblait plutôt à un match de handball, avec les deux joueurs qui nous ont vraiment embêtés, c'est Bakayoko et Robert. Il y en a un qui est sorti très tôt et un autre qui est sorti à 20 minutes de la fin. Et là, c'est pas 5-4, je pense, le résultat. Si ce match dure encore 10 ou 15 minutes, c'est 8 ou 9-4.
De là, c'est Ajaccio à Montpellier jusqu'à l'USM Alger. Il sait partout mobiliser ses joueurs. On le décrit comme un homme à l'autorité naturelle, exigeant tactiquement, bienveillant et toujours avec une pointe d'humour. Au fil des générations, il révèle ou accompagne de grands joueurs, le Zinedine Zidane, qu'il sera le premier à surnommer Zizou, mais aussi David Ginola, Laurent Blanc ou encore le Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé. En 2005, Roland Courbis devient consultant pour RMC et pour des millions d'auditeurs, sa voix est immédiatement reconnaissable. Son accent méridional, chaleureux et son franc-parler font sa marque. Il commence par intervenir dans l'arc-et-foot avant de lancer sa propre émission, Coach Courbis, un surnom qui restera attaché à son nom pour toujours. Pendant plus de 20 ans, il suit les grands rendez-vous du football sur d'autres antennes, comme BFM TV ou SFR Sport, laissant sa marque sur le paysage médiatique sportif. Même en direct, il ne mâchait jamais ses mots.
Mais Roland, c'est quand même les joueurs qui jouent. Quand on me dit ça, je dis, tu sais que t'es une tête d'intelligent, toi. Je pensais que c'était le staff technique et médical qui était sur le terrain. Non, mais c'est les joueurs qui jouent.
Personnage romanesque, Roland Courbis a aussi connu son lot de scandales. Il a été incarcéré à 2 reprises. La première fois dans l'affaire de la Caisse Noire de Toulon. Il racontait d'ailleurs que, même derrière les barreaux, il continuait de composer ses équipes. Et puis un second séjour en prison en 2009, après sa condamnation dans l'affaire des comptes de l'OM. En 30 ans de carrière comme entraîneur, il a dirigé pas moins de 14 équipes dans 6 pays différents.
Tout en travaillant 24 heures sur 24, j'ai toujours eu l'impression que pour moi, je ne travaillais pas. Et me retrouver à 48 ans, pratiquement, à n'avoir fait que du football, autant joueur qu'entraîneur, je ne peux pas après me plaindre d'avoir eu la chance de pouvoir faire ça. C'était mon rêve depuis la naissance.
Une vie loin d'être monotone, Roland Courbis laisse le souvenir d'un homme passionné, tonitruant, généreux aux mille anecdotes et histoires. Entre terrain, banc de touche, studio radio et zone d'ombre, c'est le parcours d'un homme pour qui le football aura été, et jusqu'au bout, le fil conducteur d'une vie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les arbres australiens meurent plus vite qu'ils ne sont remplacés. Une nouvelle étude révèle qu'en Australie, les arbres meurent plus vite qu'ils ne poussent, une tendance qui contribue à l'augmentation des émissions de carbone. Ces recherches menées par l'Université de Western Sydney et publiées dans la revue Nature Plants ont constaté que les arbres de tous les types d'écosystèmes, des forêts tropicales humides aux forêts d'eucalyptus, s'éclaircissent à mesure que le climat se réchauffe. Reportage de SBS News.
la professeure Belinda Medlin de l'Institut de l'Environnement de l'Université de Western Sydney étudie les arbres depuis les années 1990. Elle est l'une des principales auteurs d'un nouveau rapport qui constate la destruction des forêts.
It's concerning because the increase in tree mortality suggests that our forests are under increasing stress, and that's likely to have impacts on all the things that we rely on our forests for. So biodiversity, habitat provision, carbon sequestration, timber production, all of those things that make forests so important.
Cette étude s'appuie sur 83 années de données provenant de plus de 2700 parcelles forestières. C'est la première à utiliser des données à l'échelle d'un continent pour montrer le nombre d'arbres qui meurent naturellement, sans lien avec les incendies ou l'exploitation forestière dans quatre types d'écosystèmes. Forêts tropicales humides, savanes et forêts tempérées d'eucalyptus.
We've looked at how that rate of tree mortality has changed, and what we've found is that it has increased over time in all of the forest types that we looked at. And we had data from southern Tasmania all the way up to the Northern Territory. All of them are showing this increase in tree mortality over time. And we've been able to associate that with the rise in temperature. So it's really a result of the changing climate.
L'étude révèle que les pertes sont les plus importantes dans les régions arides et les forêts denses, malgré la bonne adaptation des arbres à ces conditions difficiles. Parallèlement, elle constate que la croissance des nouveaux arbres est ralentie, ce qui signifie que les arbres morts ne sont plus remplacés au même rythme qu'auparavant. Cette étude fait suite à des recherches antérieures qui ont montré que les forêts tropicales humides australiennes, autrefois les éponges à carbone, sont devenues des sources nettes de dioxyde de carbone. Ce phénomène est dû à l'augmentation de la mortalité des arbres. Lorsqu'ils meurent et se décomposent, le carbone qu'ils ont stocké est libéré dans l'atmosphère. Leslie Hughes, professeur à l'université Macquarie et membre du Conseil indépendant du climat, qualifie cette tendance de profondément inquiétante.
Unfortunately, in many forests, they're actually producing more carbon than they are storing. So when we lose trees, it's an example of a positive feedback, unfortunately, to the climate system. So not only is climate change apparently driving the loss of trees, every time we lose a tree, we are less able to deal with climate change in itself.
La mortalité croissante des arbres n'est pas un phénomène propre à l'Australie. Des tendances similaires sont observées dans des forêts tropicales humides comme l'Amazonie. Cependant, grâce à la diversité de ses écosystèmes et à la variabilité de son climat, des chercheurs comme le professeur Medlin affirment que l'Australie constitue un cas d'étude essentiel pour comprendre les tendances mondiales.
One thing that concerns us is that the data that we use have mostly been collected by state forest agencies. And with the shift away from native forest harvesting, a lot of that work has actually been defunded and it's not being picked up by other agencies. So one thing that we would really like to see is continued monitoring of forests over time.
Dr. Bruce Weber est directeur scientifique et de la conservation chez Bush Heritage Australia. Il affirme que ces données sont essentielles pour permettre au gouvernement et aux organisations environnementales de mieux comprendre comment aider les forêts à s'adapter au changement climatique.
It's a real call to arms to work out how we can better understand monitoring of this mortality going forward and to ensure that we have enough monitoring plots around Australia, whether that's with the existing networks in forestry regimes or with new partnerships with private land conservation, for example, who monitor landscapes in an ongoing way. We need to look at all these opportunities to ensure that we get this insight going forward into the future and are then able to respond to it.
Ce reportage de Sam Dover de SBS News a été présenté par Jean-Noël Ducasse pour SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Tout de suite, on part pour le Dakar, y retrouver notre collègue et correspondant Christophe Mallet qui nous fait aujourd'hui découvrir un lieu hautement stratégique, la friterie du Dakar.
starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche à 13h ou à tout moment en ligne.
On est ici sur le Dakar avec Alain. Et Alain, il a quelque chose d'exceptionnel parce qu'il fait partie d'une équipe qui a une friterie. Bonjour Alain.
Bonjour.
Alors, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne, tout ça, parce que c'est hallucinant se dire qu'il y a une friterie sur le Dakar. C'est la Ch'tite friterie, c'est le Nord. Ça sent bon la patate. Expliquez-nous un petit peu le concept.
Carrément, bon, c'est surtout Hervé au départ qui fabrique des baraques à frites et qui a eu cette idée de pouvoir faire une friterie de course et de participer au Dakar. Et là, aujourd'hui, on est à la quatrième participation et il faut savoir quand même qu'on a à chaque fois passé l'arrivée, hein, même si on a une auto un peu lourde, mais elle est costaud. Ben voilà.
Expliquez-nous un petit peu le concept, parce qu'il y a une friterie, ça vient du Nord. Vous fabriquez des friteries, des friteuses, je crois, des friteries.
Ouais, c'est ça, on fabrique des baraques à frites dans le Nord.
Donc, on a tous dans l'idée les ch'tis, chez Momo, etc. Montrez-nous.
Donc là, c'est un vrai 4x4 de course, engagé en compétition, qui a déjà fait 3 Dakar, un pour la popote, un pour la course. Et en même temps, bon, on lui a greffé une baraque à frites dessus avec une vraie friteuse de compète. Hein.
Là, on voit sa fumée en plus.
Ah ouais, là, dans 5 minutes, on mange des frites. Là.
D'accord, et en dessous, il y a l'huile à frites. Hein. Faut pas fondre.
Ah ça, on peut mettre 10-20% d'huile dans le moteur hein, de ça.
L'idée, c'est vraiment de faire ça plusieurs fois sur le Dakar, je crois.
Ouais, voilà.
Tout à fait. On en fait ce soir, demain soir, à la journée de repos et avant au bivouac de la spéciale marathon, le 4e et 5e jour.
Ça, ils vont vous aimer là-bas parce que vous êtes en autarcie complètement. Il y a pas de journaliste, il y a rien. Il y a vous et votre friteuse et et le catering du Dakar.
Non, il n'y a pas le catering du Dakar. À la marathon, on va être seul.
Les sachets.
Donc, ouais, il y a deux, trois trucs à manger. Mais là, tout le monde nous attend là, sur la marathon. Là, on va faire un paquet de frites. Hein.
Toute blague à part, vous le disiez, c'est votre 4e Dakar. C'est le Dakar classique. C'est comment à l'intérieur, justement, d'être si vous l'avez fait, c'était en Amérique du Sud. Là, c'est la première fois en Arabie Saoudite.
Voilà, première fois en Arabie Saoudite avec la friterie. On était là en 2020, la première édition avec un SSV. Mais c'est notre 4e avec la Ch'ti friterie. 12e pour Hervé, 13e pour moi en tout, de Dakar. Voilà.
J'ai une question. Ça rajoute combien de poids, une friteuse? Parce que forcément, c'est pas léger.
Bah là, on l'a pesé tout à l'heure, 2 tonnes 8. Hein. 2 tonnes 8 quand même. Hein.
Donc 500 kilos à peu près en plus de friteuse.
Ah, à peu près, ouais. Hein. Ah oui, avec la structure, tout, oui. Hein.
Ouais. Et bon, là, je vois que ça cuit. On est prêt dans combien de temps, là? Quand est-ce que je peux goûter les frites?
Dans les 5 minutes. Dans 5 minutes, c'est prêt, hein, la marche.
On y est?
Quand elle commence à flotter, tu vois. Quand elle commence à flotter, sont al dente, tu vois.
Ah, là, elles sont al dente, bon, ça.
Là, elles remontent à la surface. Et là, ça va bientôt être.
Il faut les cuire deux fois ou pas?
Ouais, c'est mieux.
C'est mieux?
Ouais.
En tout cas, merci, bonne chance. Ce sera un plaisir de dévorer et de déguster des frites à Yambou encore, mais dans 15 jours.
Voilà.
Voilà. Et on espère. Merci.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Tout de suite, on se plonge dans l'histoire de l'Australie avec la suite des aventures de l'ancien Premier ministre Robert Menzies, l'homme qui a le plus longtemps exercé cette fonction dans l'histoire de l'Australie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, 4e partie consacrée à l'ancien Premier ministre Robert Menzies. Dans celle-ci, on va s'intéresser à ses dernières années au pouvoir en tant que Premier ministre, mais aussi à sa vision sur un monde autour de lui qui est profondément en train de changer. D'un côté, la guerre froide, de l'autre, la décolonisation, mais aussi des réformes assez importantes mises en œuvre en Australie. C'est tous ces points qu'on va aborder aujourd'hui et je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente écoute. Okay. Donc gagner des élections en agitant une peur plus fantasmée que réelle, ça aussi, il semble que ce ne soit pas resté cantonné aux années 50. On avance. Cette période de l'après-guerre, il y a énormément de changements partout à travers le monde. Il n'y a pas juste la guerre froide, c'est aussi celle de la fin des empires coloniaux un peu partout, et notamment celui de l'Empire britannique. Robert Menzies, on sait que c'est un très fervent défenseur de la monarchie britannique. Est-ce qu'on sait, en revanche, comment il vit cette période, enfin voilà, ce modèle qu'il adule, qui est en train un petit peu de perdre de son prestige? On imagine qu'il ne le vit pas très bien.
Alors, il ne le vit pas très bien, mais c'est pareil, il ne le voit pas vraiment, parce qu'il est convaincu de son bon droit de ce côté-là, en devient risible en fait. C'est-à-dire que quand il quitte le pouvoir en 66, c'est le dernier des Mohicans. C'est quelqu'un qui est obsédé par la reine d'Angleterre à partir de 53, qui l'invite, qui fait un discours, il reste un tableau assez mémorable de la reine Elisabeth II, qui est toute jeune reine à l'époque. Il est obsédé par la Grande-Bretagne, si bien qu'en fait, pendant sa retraite, il a une espèce de lordship et il part en Grande-Bretagne s'installer. Enfin, c'est assez ahurissant parce que c'est vraiment le dernier des Mohicans. On aurait vu ce type de comportement au 19e siècle, on l'aurait compris, mais lui, vous l'avez rappelé, c'est le premier ministre dont les parents sont nés en Australie. Donc théoriquement, on aurait pu attendre un peu plus de nationalisme fait maison, si vous voulez, mais pas du tout. C'est un nationalisme très cohérent avec l'histoire australienne, mais du siècle précédent.
Qui plus est, pour un Écossais, on aurait pu attendre qu'il soit un peu plus détaché de Londres et de l'Angleterre. Pardon.
C'est quelqu'un qui est obsédé par les titres britanniques, la petite gloriole comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que quand il part en 66, ça lève une chape de plomb en Australie parce que... Il a laissé coincer. En fait, l'Australie est devenue poussiéreuse. Poussiéreuse. Le monde a bougé, a évolué. Il y a eu des décolonisations. La couronne britannique les a parfois accompagnés. Et lui, en fait, non, nous sommes britanniques, nous allons rester, nous sommes le bastion, nous avons des valeurs britanniques, nous parlons anglais, notre littérature, c'est Shakespeare. Voilà, c'est assez impressionnant. Extrêmement conservateur dans l'art. C'est le moment où les peintres australiens produisent des croûtes absolument phénoménales, enfin hideuses. Et voilà, il n'y a pas d'encouragement pour l'art, pour le cinéma. Autant il fait des choses importantes. Là, je suis en train de peindre un tableau, donc je vais m'autocoriser. C'est quelqu'un qui a une grande vision pour l'industrie australienne, qui importe des migrants pour ouvrir l'économie australienne également, qui multiplie la création d'universités parce qu'il est extrêmement important pour lui que le pays devienne plus intelligent. Donc, c'est un visionnaire. Si vous voulez, c'est un peu comme la période gaullienne avec des grands plans, des grands travaux. Il faut moderniser le pays. Et ça, là-dessus, il y arrive. Mais culturellement, c'est très... C'est le dernier des Mohicans, comme je l'ai dit. Il y a un pareil pour nos auditeurs qui parlent anglais. Un des discours les plus connus d'un premier ministre travailliste plus tard, qui s'appelle Paul Keating. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Paul Keating Cultural Cringe, Keating fait un tableau des années 50 sous Menzies et c'est à mourir de rire. Parce que voilà, c'est la Grande-Bretagne, même pas à papa, c'est la Grande-Bretagne à grand-papa, quoi, si vous voulez. Donc là-dessus, il représente une Australie qui n'a pas voulu laisser partir l'Empire. C'est-à-dire que c'est les derniers à réaliser qu'il n'y a plus d'Empire, que c'est une coquille vide, que le monde a changé, et pourtant c'est quelque chose qui était important pour eux. Et donc ça ouvre après les années 70, dont on a parlé avec Whitlam, où on se pose la question de l'île nationale, du drapeau, toutes ces choses-là. Mais pour l'heure, entre 49 et 66, pour Menzies, il ne s'agit pas d'avoir une neutralité culturellement indépendante. La culture australienne est essentiellement la culture britannique.
Mmh. Alors, deux choses importantes qui se sont passées sous le très long, enfin, les très longs mandats de Robert Menzies, mais c'est des sujets dont on a déjà parlé dans de précédents épisodes que je vous invite à aller écouter ou réécouter. Mais donc, il y a ce contexte de la guerre froide, il y a aussi cette frousse qu'a provoqué le Japon en Australie pendant la Deuxième Guerre mondiale qui le pousse à prendre deux décisions quand même significatives. D'une part, autoriser les Britanniques à faire des tests nucléaires en Australie, et on l'avait déjà dit dans les deux épisodes qu'on a consacrés à cette affaire, c'est quand même le seul pays au monde qui a autorisé un pays étranger à faire exploser des bombes nucléaires sur son propre territoire, c'est quand même assez dingue. Et puis le deuxième sujet, c'est donc que l'Australie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, se rend compte qu'elle est au final un tout petit pays et qu'elle est en fait ouverte à toute possible invention, qu'elle soit réelle ou supposée. Et donc, il va, pour peupler l'Australie dans des proportions jugées suffisantes, commencer un petit peu à affaiblir la fameuse politique de l'Australie blanche et s'ouvrir timidement à d'autres peuples que les Anglais, les Celtes, etc., etc., quoi. C'est sous Menzies que ces deux choses-là se passent.
Alors, vous me corrigerez peut-être, mais de mémoire, il y a un autre pays indépendant qui laisse un autre pays faire des tests nucléaires chez lui. C'est l'Algérie d'après 1962. De mémoire, le test gervois, c'est une fois l'indépendance de l'Algérie passée. Je pourrais être corrigé par un auditeur là, mais voilà. Tout ça pour dire que c'est pas nécessairement vu comme un autre pays, puisque on vient de le rappeler, Menzies conçoit l'Australie comme voilà une partie de l'empire britannique et que de toute façon, la reine d'Angleterre est reine d'Australie. Et c'est chez eux quoi. Enfin, c'est pas chez eux puisque pour lui, c'est un peu le même peuple. Et donc, effectivement, il est assez visionnaire là-dessus. Des tests qui sont réalisés en Australie occidentale, puis en Australie méridionale. Il y a eu un livre d'une collègue qui vient de paraître, qui s'appelle Jess Irwin, et de mémoire, le titre de son livre, c'est « Contaminated Nations ». Justement sur les essais atomiques qui ont eu lieu, qui ont eu des retombées extrêmement néfastes sur les terres aborigènes et sur les personnes aborigènes qui se trouvaient là quand les évacuations n'ont pas été toujours bien menées. Le but, c'est de faire avancer le programme nucléaire britannique parce qu'il pourrait protéger les Australiens. Or, ça ne s'est pas passé comme ça. Les Britanniques ont été très contents d'obtenir le nucléaire, mais pour eux. Il a joué sur plusieurs tableaux pour être couvert du fait de la peur des communistes aussi, en signant un traité à Landsus avec la Nouvelle-Zélande et puis les États-Unis, où assez tôt finalement il y a une ambiguïté sur est-ce que l'Australie bénéficie du parapluie nucléaire, déjà c'est assez dissuasif. Et le rêve de Menzies aurait été de se munir de la bombe atomique, mais c'est très clairement pas concevable à cette époque-là. L'Australie n'en a ni les moyens, ni les capacités techniques, militaires, d'ingénierie ou scientifiques. En revanche, ce qui leur est plu aussi, c'est de commencer d'avoir un parc nucléaire. Mais tout ça, c'est pas fait, en fait, parce que les Britanniques n'ont pas eu beaucoup de fair play à cet égard et n'ont pas réellement aidé les Australiens. Donc, vous savez, le parti de libéral en ce moment en Australie a fait sa dernière campagne sur les coûts de l'électricité qui sont très forts en Australie et qui polluent énormément parce qu'on utilise beaucoup de charbon, en disant il faut faire du nucléaire. Voilà, c'était le moment où en fait l'Australie a un peu raté le train, mais pas parce qu'elle ne le voulait pas, parce que ça ne s'est pas fait. Mais Menzies à l'époque l'aurait souhaité.
Je me permets de... Pardon de vous interrompre pour vous fact-checker. Le test Gervoise Bleue, c'est en 1960, donc en plein pendant la guerre d'Algérie et avant que celle-ci soit indépendante. Pardon, je vous laisse reprendre.
Non, non. Alors, pendant que je réponds à la fin sur l'Australie blanche, peut-être double ou triple fact-checkez-moi, parce que de mémoire, il y a eu plusieurs tests français et que au sein des accords d'Évian, il a été conclu que la France pouvait utiliser le sol algérien jusqu'en 64. Alors ça, c'est mes cours d'histoire de 3e et j'ai peut-être tout oublié, mais je suis intéressé par savoir si voilà, il me reste quelque chose. Pour le point Australie blanche, ça va main dans la main avec ce que je disais sur le nucléaire et l'industrie. L'Australie a beaucoup de produits d'extraction, la mine et aussi agricole. Beaucoup de blé, beaucoup de laine. Et Menzies voit bien que le futur des pays développés, c'est dans l'industrie, de fabriquer des téléphones, des voitures. Et il y arrive très bien. Il y a une proto-industrie grâce à la Seconde Guerre mondiale avec quelques voitures, quelques avions. Et il capitalise là-dessus. En fait, il a aussi bénéficié du gouvernement travailliste qui le précède, donc avant qu'il arrive en 49, qui a une politique active pour industrialiser le pays, politique qu'il continue, parce qu'il voit très clairement que c'est dans l'intérêt de l'Australie. Et pour ce faire, il continue aussi la politique d'après-guerre travailliste, qui était une rupture fondamentale pour les travaillistes, parce que vous avez un ministre d'immigration, le premier ministre de l'immigration en 45 ou 46 de mémoire, qui s'appelle Arthur Calwell, qui est de gauche, et qui vend cette politique de « populate or perish ». Il faut se peupler ou mourir. Parce que l'Australie a eu très peur pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée impériale japonaise, c'est immense. Hein. L'Australie, en 1939, c'est moins de 7 millions de personnes. Et en 1945, on n'en est pas à beaucoup plus. Et donc, il faut peupler. Et pour ce faire, le gouvernement travailliste sait bien que les Australiens ne sont pas prêts à laisser rentrer des personnes qui ne soient pas blanches. Ils essaient de recruter des Britanniques, il n'y en a pas assez. Et donc, ils commencent à recruter des anciens déportés de la guerre en Europe, donc des personnes d'Europe du Nord, parce qu'ils sont très blancs, très blonds. Et puis, voire des anciens ennemis, hein, des Allemands, des Autrichiens. Mais pareil, ils n'y arrivent pas parce que c'est le moment des grandes migrations. Les gens retournent chez eux ou partent au Canada ou partent aux États-Unis, mais c'est un moment où il y a de l'emploi. Donc les Britanniques, ils vont dans leurs usines, ils n'ont pas besoin d'aller au bout du monde. Donc le Labour a du mal. Menzies, lui, ce qu'il voit, c'est que les mentalités évoluent et qu'on pourrait peut-être proposer aux Australiens des blancs un peu moins blancs, donc des Grecs, donc des Italiens. Et donc dans les années Menzies, il y a effectivement le début du démantèlement de la politique de l'Australie blanche. Parce que, effectivement, ouvrir la porte aux immigrants blancs, qu'a fait le gouvernement travailliste avant, ça compte pas vraiment dans la mesure où ethniquement ils sont assez similaires. Mais avec Menzies, on voit que d'autres cultures peuvent probablement enrichir le pays, à la fois de façon économique, mais enrichir aussi culturellement. Et ça passe plutôt bien. C'est promu par le gouvernement, et ça se fait via des grands chantiers comme les barrages hydrauliques de la Snowy Rivers, qui sont encore d'actualité aujourd'hui, où on fait venir des ouvriers qualifiés de toute l'Europe pour venir construire ces barrages. Et ça passe très bien parce que voilà, c'est l'image un peu d'Épinal d'une Australie unie au travail où il y a de l'industrie et puis une ville en bénéficie, et c'est aussi une des raisons de sa longévité politique, c'est que pendant ces années-là, effectivement, culturellement c'est plan-plan, on regarde ça aujourd'hui en se disant mais c'est pas possible, mais économiquement vraiment c'est le moment des Trente Glorieuses aussi pour l'Australie. Et donc, il n'y a pas de raison de changer de gouvernement quand, finalement, économiquement, bah, vous arrivez à vous acheter un frigo, une voiture, les banlieues australiennes sont en pleine explosion. Donc, les années Menzies, finalement, pour de nombreux Australiens, ça a été des années de croissance.
Alors, on va y venir sur cette période de prospérité économique, mais pour terminer le fact-checking et contre-fact-checking, effectivement, il y a eu des tests français en Algérie jusqu'en 1966, et qui a été négocié effectivement dans le cadre des accords d'Évian. Ceci étant dit, parce que je suis quand même un petit peu de mauvaise foi, il y a quand même une différence entre un pays qui n'est sous la menace de personne et un autre qui est en train de se battre et de négocier son indépendance avec son ancienne puissance coloniale. Enfin, je veux dire, c'est que les Australiens, personne ne les a contraints et ils ont dit « Allez-y, faites-vous plaisir », alors que les Algériens, on peut comprendre qu'à ce moment-là, il y avait peut-être des priorités plus importantes que laisser ou non des Français faire exploser des bombes en plein désert.
Tout à fait. On a tous les deux raison. Voilà, on va conclure là-dessus que historiquement j'avais les dates, mais que oui, sur le principe, le contexte est évidemment totalement différent. Oui, vous avez raison.
On va en rester là pour aujourd'hui et on vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour écouter la dernière partie de cet épisode consacré à Robert Menzies. Nous espérons que vous avez apprécié ces quatre premiers et on vous dit donc à très bientôt pour la fin de cette histoire. Merci et à très bientôt.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Jean-Philippe Botin, le directeur de l'Alliance française de Brisbane. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël, meilleurs vœux pour 2026 à tous les auditeurs de SBS et puis aussi à tous les gens francophones, francophiles autour de l'Australie.
Absolument, bonne année à vous et à l'Alliance française de Brisbane et on va parler
Merci
surtout de la rentrée 2026. Peut-être on va commencer par l'Open Day, la journée porte ouverte que vous avez programmée pour le samedi 17 janvier.
C'est une belle journée, on a décidé de renouer avec la tradition. Je sais que beaucoup d'alliances en Australie et dans le monde font ce genre de journée. Alors nous, c'est de 10h à 16h. Alors on organise des activités pour tout le monde, francophones et non francophones, pour les francophiles, pour les enfants, petits, moyens, grands, pour les adultes. On a des classes d'essai, des trial classes pour des débutants et puis aussi pour des intermédiaires. On organise quelque chose avec la VR, hein, donc on a des casques VR et donc on aura une visite virtuelle de Notre-Dame. Ça, c'est plutôt pour les ados ou alors les adolescents, quoi. Et puis on aura aussi des projections de films pour les 3-5 ans, film d'animation français, en français sous-titré en anglais, et puis pour les 5 ans et plus. Et puis, on aura aussi une conférence que je donnerai sur le français contemporain, mais je veux dire l'argot, le slang français d'aujourd'hui tel qu'on le parle. Et on aura de la galette, on aura des ventes et donations de livres assez important, donc si vous aimez lire les livres, c'est l'occasion de venir faire votre marché. Voilà, c'est à peu près tout. Puis on a bien entendu notre accueil qui sera là, enfin les gens de l'accueil qui seront là pour prendre, si vous avez envie de suivre un cours, eh bien pour vous enregistrer et pour vous expliquer un peu tous les cours qu'on offre. On a encore des sessions d'été la semaine prochaine, donc pour s'enregistrer pour les cours et les ateliers d'été, ou alors pour la rentrée qui commence au lendemain de Soledad, le 27 janvier, on a encore des places. Ouais. Donc voilà, vous pouvez passer une journée agréable autour d'un café et d'une galette des rois, et voilà.
Oui, et vous êtes toujours à la même adresse à Brisbane.
Toujours à West End, toujours dans le 6e quartier le plus trendy au monde. Donc on est là et c'est le samedi matin, 10h à 16h, et on sait qu'il y a le marché de West End juste à côté. Donc c'est l'occasion en plus après d'aller faire son marché chez des agriculteurs australiens bio. Sympa comme tout. Voilà, c'est un moment que je vous conseille vivement.
Et puis on enchaîne avec les événements culturels de 2026. J'imagine qu'on va retrouver le book club, le ciné club, les rendez-vous,
voilà.
Conversations.
Alors, Si vous voulez bien, Jean-Noël, ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est bien entendu la rentrée des classes, hein, la rentrée des cours de français le 27 janvier. Il y a des places encore. On a toujours le tarif early bird jusqu'au 20 janvier, donc on peut encore prendre des s'enregistrer pour la session 1. On a aussi encore ouvert notre voyage d'immersion en France à Tahiti. Hein, le voyage est du 6 avril au 18 avril. Tous les renseignements sont sur notre site internet. Il y a encore des places, hein, si on veut un peu découvrir la France de Polynésie, Mouréa précisément, l'île de Mouréa. Et donc ça, c'est pendant 10 jours merveilleux. Merveilleux sur l'archipel de Tahiti, en Polynésie française. Effectivement, le book club, c'est le 6 février de 18h à 20h. Le livre qui a été choisi par l'animatrice, c'est La mort du roi de Songor de Laurent Godet. Les livres sont disponibles à l'achat à l'Alliance si on veut les avoir, si on ne peut pas les commander, si on ne peut pas rentrer dans la galère de commander. C'est à l'Alliance, c'est un club qui est accessible aux membres. On a bien sûr les autres clubs qui auront lieu de conversation et le club de jeu, de jeu de société, là. Tout est écrit sur notre site et ça réouvre avec la rentrée. Nous avons un ciné-club, là, il est complet. C'est Alice Guy, sur la première personne au monde qui a créé un cinéma narratif, un cinéma où on raconte des histoires et on ne fait pas que filmer un train qui passe et des gens qui sortent d'une usine. Alice Guy, c'est la première personne c'est la femme qui a créé cela. C'est aussi la femme qui est allée enfin, c'est la personne qui est allée aux États-Unis et qui a créé le cinéma parlant bien avant Hollywood. C'est aussi en tant que femme, la première femme réalisatrice de films au monde. Et donc, on présentera 13 courts-métrages. C'est plein pour les books, mais je pense qu'on va remettre cette séance-là une autre fois parce qu'on a une liste d'attente énorme. Donc, simplement, mettez-vous sur la liste d'attente et puis on refera pour vous une deuxième projection. Le ciné-club suivant, c'est le 11 février, avec un film merveilleux. C'est India Song de Marguerite Duras, le film extraordinaire. Et tout ça se passe à côté d'Alliance, à l'université SAU de cinéma de communication, juste tout en bas de Jane Street. Voilà, ça c'est pour les quelques événements culturels. Et puis, bien sûr.
On parle du cinéma. On va parler de votre premier Alliance française French Film Festival à Brisbane.
À Brisbane, c'est mon premier. Mais il y a 25 ans,
quand
j'étais directeur de Melbourne, le Alliance française French Film Festival existait déjà. D'ailleurs, c'est dans ces années-là qu'il a pris son nom officiel d'Alliance française French Film Festival. Alors, on est bien entendu extrêmement occupé, comme vous imaginez, au niveau national. L'équipe qui est autour de Frédéric à Sydney qui coordonne tout le festival sur l'Australie. Et nous-mêmes ici à Brisbane, nous sommes très 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 occupés. Alors, le programme est encore sous embargo jusqu'au 5 février. Ce que je peux vous dire déjà, c'est des dates. C'est déjà pas mal à savoir. Hein. Sur Brisbane, c'est du 5 mars au 8 avril. Mais vous savez qu'ici, on s'occupe aussi de Byron Bay et Ballina. Mm-hmm. Et donc là, c'est du 6 mars au 2 avril. Et on s'occupe aussi du même festival sur la Gold Coast. Et ce sera du 19 mars au 8 avril. On a aussi un programme pour les écoles. Alors là, si vous avez besoin de renseignements, je vais vous donner une adresse email, c'est la mienne. Et vous m'envoyez un petit mail, vous êtes prof dans une école, vous voulez savoir comment le faire, vous savez comment faire et vous voulez réserver des séances. Alors, mon adresse mail, c'est director@afbrisbane.com. Vous m'envoyez un petit mail et je transmets votre demande directement. Voilà, l'ouverture des ventes de tickets et donc le programme complet, C'est à partir du 5 février. Hein, vous tapez sur votre moteur de recherche Alliance Française French Film Festival Australia et vous trouverez le site direct. Et donc, vous pouvez acheter les tickets à partir du 5 février. Vous aurez le programme complet.
Absolument.
Moi, ce que je peux vous dire en exclusivité sur SBS, c'est que cette année, le festival est extrêmement complet. Je veux dire, le programme est complet. On a vraiment de tout. Ce sont des films comme chaque année de 2025 avec un de 2026. Ce sont des films qui sont déjà sortis en France sur l'année 2025 ou qui vont encore sortir. Il y en a un de ces films, je ne veux pas donner le titre, mais un de ces films qui est sorti au moment de Noël, un film, un très très bon film, et puis certains encore qui vont sortir tout début 2026. Donc c'est vraiment des films tout frais de l'industrie du cinéma français. Vraiment un programme très équilibré avec de très belles comédies, une comédie un peu potache. On ira même sur les traces du Manny Jones français. On a un film dystopique, un film d'animation très très beau, enfin des films sombres. On aura aussi sur Brisbane notre séance sur Pride avec un des trois films LGBTQI+ qui a été sélectionné pour un événement Pride. Donc tout le programme sera disponible à partir du 5 février. Mais vraiment, moi j'ai vu tous les films et vraiment j'ai trouvé que c'était très très équilibré. Là vous pouvez vraiment, quel que soit le style de film que vous aimez, trouver 3-4 belles soirées pendant ce mois de mars,
de mars
et début avril.
Et le site de l'Alliance française French Film Festival sera disponible dès la première semaine de février, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Hein. Donc, il est ouvert, mais vous aurez des renseignements sur l'année dernière et puis vous aurez la bande-annonce du festival qui est, je ne sais pas si vous êtes tombé dessus.
Qui est disponible, oui.
Voilà, il est très, très, très beau. Alors, vous avez des extraits, des images de certains des films de la programmation. Donc, vous pourrez déjà reconnaître certains films, notamment le Indiana Jones français, qui est vraiment très bon. Hein. Ah là là, c'est vraiment très bon. C'est un film d'aventure, comédie, donc vraiment excellent. Ça, et puis vous avez d'autres extraits avec des acteurs que vous allez reconnaître immédiatement. Et très beau, avec une très belle chanson. Vous allez voir, déjà, la bande-annonce, ça donne envie. Et j'ai été voir plusieurs films français qui sont programmés dans les salles en ce moment et qui étaient présents au Festival du film de l'année dernière et que je n'avais pas vu. Donc, je suis allé le voir en salle et j'ai vu la bande-annonce sur grand écran. Et la salle a fait « Oh !» parce qu'il a vraiment été impressionné par le festival. Et j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça très bon. Très intéressant, oui.
Je reviens sur les cours. Donc, oui. Vous aviez mentionné, le premier trimestre va démarrer bientôt, le 27 janvier. Mais je crois qu'en ce moment, il y a des summer workshops et des summer courses.
Voilà, donc on a les summer courses and workshops. On a une première semaine là qui est bien entamée, mais on a encore des places pour les workshops. Et puis on a encore des workshops la semaine qui suit, etc. Donc on a encore des possibilités. Si vous avez envie d'avoir un petit peu de français comme ça sur des moments courts, il y a encore des disponibilités. Hein. Et puis on a notre rentrée et donc des disponibilités pour les cours sur tout le trimestre cette fois-ci. La rentrée étant le 27 janvier.
Merci à vous, Jean-Philippe Botin, et à très bientôt sur SBS en français.
Ben oui, eh bien, un grand plaisir. Et puis, encore une fois, une bonne année, pleine d'action et pleine de français. Voilà.
Merci à vous.
Au revoir.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Orgel Music. Yes, Franco. Et chat à la babouille.
Mon ami, je dis, tu ne danses pas.
SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui, mais notre prochain rendez-vous à la radio, ce sera mardi à 13h précise. Dans l'intervalle, je vous invite à consulter notre site web SBS French
à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme de streaming audio préférée. C'est là que vous pourrez retrouver l'ensemble de nos émissions, interviews et reportages. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi.
Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. On est là pour s'amuser, on est là pour s'enjailler. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites, fais ton choix. Si tu ne sais pas comment faire, un mola, fais comme moi. Récupère la petite, angoisse la petite, embrouille la petite, et maintenant colle la petite. Coller, 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 coller la petite. Coller, 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 coller la petite. Zanga, 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 zanga la petite. Zang, zanga, 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 zanga la petite.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.